les grandes femmes de l'histoire. L'émission qui présente les personnalités féminines qui ont marqué notre histoire. Des podcasts proposés par les élèves de 4e du collège Jules Verne de Vittel.
Pour cette émission, nous ferons la rencontre de grandes femmes qui ont marqué leur temps, comme Aspasie de Milet pour la période antique. Au Moyen-Âge, nous retrouverons Alra Cunha et Tomoe Gossen. Maddalena Casulana et Caroline Herschel seront les deux exemples de l'époque moderne. Et enfin, nous ferons la connaissance de deux physiciennes du XXe siècle, Marie Curie et Valérie Thomas. Commençons tout de suite avec Aspasie de Milet. Plus que la femme de Périclès, Clémentine, Laurina et Louis vont nous parler de cette vraie politicienne au temps de la démocratie athénienne.
Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurina. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aspasie de Milet avec trois experts en la matière. Cette femme a marqué l'histoire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors Clémentine, que savez-vous plus précisément sur Aspasie de Milet ?
Elle est née vers 470 avant Jésus-Christ à Milet et elle est décédée vers 400 avant Jésus-Christ à Athènes. Aspasie est son nom de philosophe mathématicienne.
Que signifie de Milet ?
De Milet est le nom de la riche cité d'Asie mineure qui est actuellement la Turquie où elle est née.
Louis, donnez-nous des informations plus précises sur Axiochos, le père d'Aspasie.
Axiochos était un ancien philosophe qui a transmis ce savoir à sa fille à partir des clés et de leçons qu'il aurait pu lui faire.
Est-ce vrai qu'elle était rhétrice et oratrice ?
Oui, elle est devenue rhétrice et oratrice. Elle a été dans la politique, mais elle s'est surtout fait connaître en étant écrivaine grâce à ses livres, comme Testimonios y Discursos, qui signifie témoignage et conférence.
Clémentine, est-ce que les conditions féminines de l'époque permettent aux femmes d'accéder à la politique et à la philosophie ?
Non, car les conditions féminines dans l'Antiquité grecque se dégradent. Elles n'ont pas accès à la citoyenneté et sont reléguées aux travaux domestiques, comme c'est le cas à Athènes.
Louis, est-ce vrai qu'Aspasie était connue à son époque ?
Oui, car elle est devenue philosophe grâce à ses grandes connaissances et elle était la compagne d'un grand homme d'État athénien nommé Périclès.
D'après mes recherches, Aspasie de Milet a beaucoup été étudiée par des historiens.
Moi, je ne la connaissais pas avant, mais je trouve que c'est une grande philosophe.
Moi, je pense que c'est une bonne écrivaine et philosophe.
Moi, je trouve que c'est une femme qui a marqué l'histoire et qu'elle était intelligente.
Moi, je pense que c'est une femme qui a aidé les femmes à s'affirmer. Je ne la connaissais pas avant. Merci aux experts de nous avoir fait découvrir le parcours d'Aspasie de Milet. On espère que cela vous a plu. C'était Laurina avec
Clémentine
et Louis.
À bientôt.
Nous plongeons maintenant dans le Japon médiéval. Élise, Paul et Maya vont nous raconter l'histoire de Tomoe Gossen, une femme samouraï.
Bonjour, je suis Paul et aujourd'hui nous allons vous parler de Tomoe Gossen avec nos expertes Maya.
Bonjour.
Et Élise.
Bonjour.
Qu'est-ce qui a rendu célèbre Tomoe Gossen ?
Elle est devenue célèbre grâce à ses talents en équitation, au tir à l'arc et au kenjutsu. Son mari ayant reconnu ses talents, il lui donna une place dans l'armée en tant que samouraï.
Qui était-elle avant de devenir samouraï ?
Tomoe Gossen était noble car son père était commandant militaire.
Elle est née à l'ère Heian ?
Oui, effectivement, elle est née à l'ère Heian.
C'est quoi l'ère Heian ?
L'époque Heian est une époque de l'histoire japonaise caractérisée par une grande richesse culturelle et artistique. De plus, c'est une dynastie qui dirige le Japon entre 760 et 1185.
Mis à part cela, les femmes nobles de l'époque Heian n'ont pas le droit de sortir et de montrer leur visage à d'autres personnes que leur famille et leur mari.
Mais comment Tomoe Gossen a-t-elle pu être aussi respectée dans l'armée ?
Grâce à son mari, elle a pu être aussi respectée qu'un homme.
Qui était son mari ?
Son mari est le général Minamoto no Yoshinaka, membre du clan Minamoto, défenseur du peuple.
Ont-ils combattu ensemble ?
Oui, ils ont combattu plusieurs fois, mais leur plus grande victoire était la bataille d'Awazu le 21 février 1184.
C'est quoi la bataille d'Awazu ?
C'est une bataille entre un même clan qui ont un désaccord. Les investigateurs sont deux cousins, Minamoto no Yoshitsune et Minamoto no Yoshinaka.
Aujourd'hui, est-elle toujours aussi connue ?
En Orient, c'est une légende, mais en Occident, elle n'est pas connue. Elle est juste mentionnée dans une série télévisée pour enfants nommée Miraculous, les aventures de Ladybug et Chat Noir.
Je viens de découvrir une nouvelle femme qui a marqué l'histoire. Je l'ai trouvée très différente des autres, car elle a su accéder à une place qu'aucune autre femme n'a pu avoir. Et vous, qu'avez-vous pensé de vos recherches, mes expertes ?
J'ai bien aimé mes recherches, mais ce n'est pas l'histoire la plus marquante de ma carrière, car elle n'est pas assez enrichie en suspense.
Je n'ai pas trop apprécié ses recherches car elle a eu un avantage avec son mari qui lui a offert une place auprès de l'armée, ce qui est injuste envers les autres femmes.
Merci de votre écoute et à bientôt.
Toujours à l'époque médiévale, mais cette fois-ci en plein cœur de l'Espagne musulmane, Arthur, Caroline et Ryan retracent le parcours de la poétesse Al-Rakounia.
Bonjour, je suis Arthur et je suis avec Caroline et Ryan qui vont nous parler de Hafsa bint al-Haji, une poétesse du Moyen-Âge aussi appelée Al-Rakounia.
Bonjour, cette femme est née vers 1135 à Grenade en Al-Andalouse, qui est une région d'Espagne qui à l'époque était dirigée par les musulmans. Elle est morte vers 1191 à Marrakech au Maroc.
Est-ce que le fait qu'elle soit issue d'une famille noble l'a aidée dans sa vie ?
Oui, notamment dans sa fonction de poétesse, écrivaine et enseignante, car elle a eu accès à l'éducation. Mais elle a quand même dû se battre parce qu'au Moyen-Âge, les femmes étaient considérées inférieures à l'homme.
La noblesse l'a aidée à se faire connaître du prince Abu Jafar ibn Saïd, qui est tombé amoureux d'elle.
Avons-nous retrouvé une trace de sa vie et de ses œuvres ?
Oui, nous avons retrouvé 17 poèmes dont « La colombe chante sa tristesse », écrit en hommage à son amant décédé.
Nous allons vous lire ce poème émouvant. Sur ta vie, notre union attriste le jardin. Sinon, il aurait montré de l'ennui et de la peine. Le fleuve n'aime pas nous voir si proches, et la colombe chante sa tristesse. Ne te mets pas en colère, car la colère empêche les bonnes actions. Si le ciel a montré ses étoiles, ce n'est pas que pour nous espionner.
Est-elle connue actuellement ?
Non, il y a très peu de livres et d'articles qui parlent d'elle, et nous n'en avions jamais entendu parler avant de faire des recherches pour ce podcast.
Qu'est-ce qui vous a marqué dans la vie de cette femme ?
Ce qui m'a marqué, c'est le fait qu'elle soit connue grâce à ses poèmes et que malheureusement aujourd'hui, nous ne parlons plus d'elle.
Ce qui m'a marqué chez cette femme, c'est son talent grâce auquel elle a réussi, et le fait qu'on ne parle plus d'elle actuellement.
Personnellement, ce qui m'a marqué est que malgré les conditions des femmes au Moyen-Âge, elle était connue de son époque et elle a réussi sa vie. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris des choses sur Hafsa.
À bientôt.
Emma et Corentin vont nous présenter Maddalena Casulana, une compositrice italienne de l'époque moderne.
Bonjour, je m'appelle Corentin et avec nos deux experts, nous allons vous présenter une femme nommée Maddalena Casulana. Nous allons vous raconter sa vie et ses exploits. Bonjour à nos deux experts. Pouvez-vous nous dire à quelle époque cette musicienne a-t-elle vécu ?
Maddalena Casulana a vécu au XVIe siècle. Plus précisément, elle est née en 1544 et décédée en 1590.
La musicienne est restée toute sa vie en Italie. Elle est la première femme à avoir publié de la musique dans son pays.
Maddalena Casulana est issue d'une famille noble et riche. Mais quels sont les métiers qu'elle a exercés ?
Elle a été chanteuse, compositrice et luthiste, ce qui veut dire qu'elle joue de la luth tout au long de sa vie.
Mais pas seulement, cette chanteuse a aussi écrit des livres.
Sa première œuvre musicale s'intitule « Il Desirio », ce qui signifie « un souhait ».
Pourquoi peu de métiers sont disponibles aux femmes à cette époque ?
En effet, rares sont les choix professionnels pour les femmes en raison des préjugés des hommes qui croient les femmes faibles et inférieures.
Maddalena est connue uniquement dans son pays, n'est-ce pas ?
En effet, l'artiste n'est connue qu'en Italie, pour cause ses œuvres ne sont traduites dans aucune langue, elle est donc inconnue dans des populations étrangères comme la France. Aujourd'hui, nous avons des enregistrements de la chanson sur Internet, il y a des podcasts parlant d'elle sur Radio France.
Merci pour ces informations. Personnellement, je ne connaissais pas Maddalena Casulana, ce que j'ai le plus aimé est qu'elle soit la première femme à avoir publié de la musique en Italie.
Je ne connaissais pas non plus cette femme, elle m'a intéressée car elle se battait pour le droit des femmes et elle a eu plusieurs métiers dans lesquels elle a excellé. Nous avons eu peu de sources car elle n'était dans aucun livre et encyclopédie française, elle méritait plus de succès.
Je ne connaissais pas cette chanteuse, elle m'a intéressée car c'est la première femme à avoir publié de la musique en Italie.
Merci et à bientôt.
Vous écoutez le podcast Les Grandes Femmes de l'Histoire. Découvrez ou redécouvrez les histoires de ces femmes célèbres ou moins connues qui ont marqué l'histoire de l'Antiquité à nos jours. Sportives, écrivaines, poétesses, musiciennes, scientifiques, politiciennes, femmes de pouvoir. Laissez-vous conter le destin incroyable de ces femmes qui ont su s'imposer envers et contre tous.
Au temps des Lumières, Lucie, Théo et Chloé nous dressent le portrait de Caroline Herschel, une astronome allemande.
Bonjour, je m'appelle Théo. Aujourd'hui, nous sommes avec Chloé et Lucie, nos deux expertes qui vont nous présenter Caroline Herschel.
Bonjour à toutes et à tous.
Bonjour tout le monde.
Tout d'abord, qui est Caroline Herschel ?
Caroline Herschel est née le 16 mars 1750. Elle est la première femme astronome de l'histoire.
Qu'a-t-elle découverte ?
Elle a découvert 8 planètes, dont une qui porte son nom, la comète périodique 35P Herschel-Rigolet et plusieurs étoiles.
D'où vient Caroline Herschel ?
Caroline Herschel est allemande, ses parents sont musiciens, elle a aussi un grand frère.
Comment est-elle rentrée dans l'université Princeton University Press ?
Elle est rentrée dans cette université grâce à son frère William Herschel qui lui a enseigné les mathématiques.
Quand est-elle décédée ?
Elle est décédée le 9 janvier 1848 à l'âge de 97 ans dans la ville allemande d'Hanovre. Elle était très âgée pour son époque.
Caroline Herschel avait-elle une maladie ? Si oui, laquelle ?
Oui, elle a été atteinte du typhus à l'âge de 10 ans. Le typhus est une maladie qui a retardé sa croissance. Elle ne mesurait donc qu'1m49 à l'âge adulte.
Quelles sont les conditions féminines au XVIIIe et au XIXe siècle ?
Au XVIIIe siècle, les femmes ne sont pas considérées comme l'égale des hommes. Elles se contentent d'une activité domestique, extérieure de la société civile. Elles sont loin de la vie que certaines désirent et très peu peuvent accéder aux études.
Caroline Herschel était-elle connue à son époque ?
Oui, elle a été la première femme élue membre honoraire de la Royal Astronomical Society, une société mathématique avec Mary Somerville. C'est une distinction prestigieuse et importante car très peu de femmes l'étaient.
La connaissiez-vous avant ? Personnellement, non. Je trouve qu'elle a eu un parcours de vie très intéressant. Elle a découvert beaucoup de comètes et d'étoiles. Elle était aussi rentrée dans une université grâce à l'aide de son frère. Elle a été la première femme astronome, la première femme membre honoraire de la Royal Astronomical Society.
J'avais déjà entendu son nom, mais je ne connaissais pas son histoire. Elle m'a beaucoup touchée, car sans l'aide de son frère, elle ne serait peut-être pas rentrée dans l'université Princeton University Press. Elle aurait été donc moins connue.
Je ne la connaissais pas. Elle a été courageuse de devenir astronome malgré sa petite taille due à la maladie du typhus. Elle m'impressionne beaucoup, car elle venait d'une famille de musiciens. Elle a donc dû tout apprendre avec son frère, William Herschel, ce qui n'est pas facile.
Merci aux expertes et aux auditeurs de nous avoir écoutés. On espère que l'histoire de Caroline Herschel vous aura autant intéressé que nous. On vous souhaite une bonne journée, à bientôt.
Émile Thibault et Émilien retracent le parcours de Marie Curie, première femme scientifique de renom ayant obtenu un prix Nobel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast présenté par Émile et les deux experts Thibault et Émilien. Nous allons parler d'une femme qui a marqué l'histoire, Marie Curie. Tout d'abord, nous allons vous présenter les grands éléments de sa vie. Ensuite, les experts vont donner leur avis, puis nous conclurons. Qui est réellement Marie Curie ?
Marie Curie, de son vrai nom Maria Sklodowska Curie, née le 7 novembre 1867 et morte le 4 juillet 1934, elle est issue d'une famille noble polonaise.
C'est aussi une grande physicienne, elle est devenue la première femme professeure à la Sorbonne.
Mais qu'est-ce que la Sorbonne ?
La Sorbonne est une très grande université supérieure à Paris qui est très renommée à l'échelle mondiale.
Comment a-t-elle remporté son prix Nobel ?
Elle a reçu un prix Nobel grâce à sa découverte du radium en 1903, en poursuivant les travaux de Henri Becquerel. Il a fait des travaux sur la fluorescence de l'uranium.
Pourquoi et avec qui a-t-elle partagé son prix Nobel ?
Au 19e et 20e siècle, les conditions féminines sont difficiles. Elle n'a pas remporté son prix Nobel seule, car son mari, Pierre Curie, à qui on a attribué les travaux du couple, a aussi remporté ce prix.
À cette époque, les femmes étaient moins valorisées que les hommes. Comme l'éducation qui était très inégale, les femmes apprenaient la couture et les hommes la science. Donc être une femme scientifique à cette époque reste très rare et peu acceptée par la société.
Je la connaissais déjà, mais ce qui m'a interpellé est le fait qu'elle soit la première femme à avoir un prix Nobel, puis qu'elle soit restée connue du grand public.
Vous avez raison, c'est souvent grâce à son prix Nobel qu'on la connaît. Moi, lors de mes recherches, ce qui m'a marqué sont les exploits de devenir agrégée et professeur dans une société inégalitaire, surtout dans la plus prestigieuse école de France et dans le domaine scientifique.
Merci à nos deux experts pour les informations qu'ils ont pu nous fournir.
Nous terminons par Émilie, Mathieu et Arnaud qui vont nous parler des découvertes essentielles de la physicienne Valérie Thomas dans les années 80.
Bonjour, je suis Émilie. Aujourd'hui, on va vous parler d'une femme qui a marqué l'histoire. Il s'agit de Valérie Thomas. Je suis accompagnée de Arnaud et de Mathieu. Qui est Valérie Thomas ?
Valérie Thomas est née le 8 février 1943 et a actuellement 80 ans. Elle a travaillé pour la NASA en 1964. Elle est mathématicienne et ingénieure en imagerie satellite.
Qu'a-t-elle fait d'important dans le domaine scientifique ?
Valérie Thomas a inventé le transmetteur d'illusion qui permet aux satellites de transmettre des images 3D depuis l'espace.
Valérie Thomas est-elle connue à son époque ? Si oui, pourquoi ?
Oui, elle est connue dans le monde scientifique car elle a travaillé pour la NASA et a créé le transmetteur d'illusion 3D, mais elle n'est pas connue dans le monde populaire.
Quels sont les problèmes qu'elle a rencontrés à la NASA ?
Elle a été victime de discrimination sexiste mais aussi de racisme, comme par exemple lorsqu'elle a présenté son invention sur le transmetteur, elle n'a jamais été applaudie car c'est une femme et elle est noire.
Valérie Thomas est une femme noire, à son époque les femmes se révoltent de plus en plus face aux pressions qu'elles subissent.
Connaissez-vous cette femme avant ? Sinon, qu'avez-vous appris sur elle ? Pour moi, je ne connaissais pas cette femme. Ce qui m'a touché chez elle, c'est ce que malgré ce qu'elle a subi, elle s'est relevée avec tout le courage dont elle avait en elle pour continuer ses recherches et son travail.
Moi non plus, je ne connaissais pas Valérie Thomas. J'ai appris sur elle ce qu'elle a subi étant femme noire, qu'elle a pu entrer dans la NASA et sa détermination.
Moi non plus, je ne connaissais pas Valérie Thomas. Je ne savais pas qu'elle avait travaillé pour la NASA et tous ses travaux scientifiques, donc elle est importante pour le monde.
Pour conclure, elle a marqué le monde scientifique grâce à son transmetteur d'illusion 3D. Grâce à son courage, elle a surmonté ses épreuves, elle mérite d'être plus connue.
Merci de nous avoir écoutés sur l'histoire de Valérie Thomas.
Si ces podcasts vous ont plu, n'hésitez pas à les partager et à en parler autour de vous. Les élèves de 4e se joignent à moi pour remercier particulièrement M. Gavigné, professeur documentaliste du collège, qui a été essentiel dans la conception et la réalisation de ce projet.
Les grandes femmes de l'histoire. L'émission qui présente les personnalités féminines qui ont marqué notre histoire. Des podcasts proposés par les élèves de 4e du collège Jules Verne de Vittel.